Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Merci, patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci, patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour, Dieu vous le rendra. Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Vous aurez peut-être reconnu l'inimitable poésie des Charlots qui en 1971 proposait ce plaisant jeu de rôle. Nous n'étions alors pas très loin de mai 68 et de l'un de ses fameux slogans « Le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui ». Le patronat n'était pas à l'époque le groupe social favori des études historiques. La chose se renversa quelques années plus tard et la fin des années 70 vit paraître toute une série de publications analysant son histoire et celle de ses représentations. Partant de ce constat, Roger Chartier proposait le 15 décembre 1980 sur France Culture un lundi de l'histoire consacré à ce sujet, dans un débat qui réunissait plusieurs historiens et sociologues ayant récemment travaillé la question. Patrick Fridençon, Michel Perrault, Maurice Lévy-Leblond et Pierre Bourdieu.
Aujourd'hui, notre émission s'attachera à cerner les contours et les caractères d'un groupe longtemps négligé par les historiens, alors même qu'il est l'un des plus puissants de la société industrielle, le patronat. Les chefs d'entreprise, en effet, n'ont guère eu les honneurs d'une histoire qui, depuis une vingtaine d'années, est plus préoccupée des masses ouvrières que des minorités dirigeantes, plus soucieuse de rendre justice et parole aux multitudes anonymes que de célébrer les capitaines d'industrie. Pourtant, depuis quelques années, l'attention s'est portée sur ceux qui détiennent le pouvoir économique et contrôlent les rouages essentiels du système capitaliste. Il ne s'agit pas là, je crois, ni d'hagiographie, ni de dénonciation, mais d'un effort pour comprendre quels sont les hommes qui ont rempli les fonctions patronales et en quoi leurs dispositions personnelles, individuelles, les qualifiaient pour occuper les positions qui étaient les leurs. Du côté des historiens, les études se sont multipliées en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. Leur nombre et leur intérêt étaient tels qu'ils ont justifié l'organisation d'une série de tables rondes organisées par la Maison des sciences de l'homme, qui a aussi aidé à la publication de leurs résultats. Un volume en est issu et il sera l'un des supports des débats de ce matin. Il a pour titre « Le patronat de la seconde industrialisation », étude rassemblée par Maurice Lévy-Leboyer. Il constitue le numéro 4 des cahiers du mouvement social édité par les éditions ouvrières et il a été publié en 1979. Mais les historiens n'ont pas été les seuls à tenter de définir les caractéristiques du groupe patronal. Autour de Pierre Bourdieu, les sociologues du Centre de sociologie européenne de l'École des hautes études en sciences sociales ont eux aussi voulu identifier le patronat français d'aujourd'hui dans son unité et ses clivages, dans ses stratégies de reproduction et son style de vie. Les résultats de cette enquête ont donné la matière de nombreux articles, mais tout particulièrement d'un numéro de la revue Actes de la recherche en sciences sociales. Il s'agit du numéro 2021, publié en 1978. Et ces résultats et ce numéro constitueront le second des dossiers sur lesquels nous travaillerons ce matin. À cette discussion qui visera à comparer les méthodes de travail, les hypothèses de recherche, les résultats obtenus, participeront bien sûr Maurice Lévy-Leboyer et Pierre Bourdieu, et aussi Michel Perrault qui a donné une contribution au recueil des éditions ouvrières, et Patrick Fridençon. Le débat se centrera sur le cas français, mais ce qui n'interdit pas bien au contraire les comparaisons avec d'autres situations nationales. Et il se centrera sur le XXe siècle, mais ce qui n'exclut pas les retours en arrière. Et de ce point de vue, je voudrais signaler l'existence de deux très bons livres consacrés au patronat des XVIIIe et XIXe siècles. L'un à forme monographique, il s'agit de l'étude de Serge Chassagne-Oberkampf, un entrepreneur capitaliste au siècle des Lumières. Il s'agit d'un livre publié chez Aubier-Montaigne. L'autre a plutôt visé de synthèse. Il s'agit du petit volume de Louis Bergeron, Les capitalistes en France, 1780-1914, et c'est un volume paru dans la petite collection archive de Gallimard. Mais pour revenir au XXe siècle, qui seul nous occupera ce matin, je pense que l'on peut peut-être ordonner notre démarche de travail autour du questionnaire suivant. D'abord, essayer de mesurer quels ont été les effets des structures nouvelles mises en place par la seconde révolution industrielle sur la définition, la composition, la formation des dirigeants d'entreprise. Dans un second temps, je pense que nous pourrions examiner selon quels contrastes majeurs se différencient plusieurs types de patronat dans la France d'aujourd'hui. Et enfin, dans un dernier temps, essayer de décrire et comprendre quelles sont les images que le patronat a voulu et veut donner de lui-même et quelles sont celles que les autres milieux sociaux ont données de lui. Alors, dans un premier temps, je crois qu'il est utile de rappeler pour tout le monde, peut-être pouvez-vous le faire, Maurice Lévy-Leboyer, qu'est-ce que c'est que la seconde industrialisation et quels sont les changements qu'elle a impliqués dans la gestion des entreprises ?
Eh bien, par opposition à l'exemple que vous donnez en rappelant le livre de Chassagne sur Robert Kampf, je pense que la seconde industrialisation a entraîné une modification fondamentale de la structure des entreprises et de leurs relations avec le marché. Je pense qu'à partir des années 1890, les grandes économies modernes se sont transformées sous trois facteurs. Premièrement, l'apparition de technologies modernes, style automobile ou chimie, qui sont fondées sur des flux de production de très grande masse, standardisés, qui peuvent donc écraser ou simplement approvisionner des marchés. Deuxièmement, les firmes sont devenues de grandes organisations internes qui sont donc à la taille d'un pays ou de plusieurs pays. Elles ont intégré des entreprises par fusion, elles ont intégré des stades de successifs de production et elles ont acquis un appareil qui, dans un deuxième temps, leur ont permis de transcender leur marché, leur secteur et donc devenir multi-unités ou multinationales. Et troisièmement, ces grandes organisations ne sont plus un homme comme Oberkampf qui est à la fois capitaliste et producteur. Ce sont des hiérarchies bureaucratiques où les décisions sont prises à plusieurs échelons, qui est dominé bien entendu par un état-major, un président, mais où il y a de manière collective une maturation des décisions, car il faut bien comprendre qu'il y a maintenant de telles accumulations de capitaux qu'il faut qu'il y ait un flux continu de produits qui arrivent sur le marché et que donc l'entrepreneur est à la fois producteur et régulateur de la demande de consommation sur laquelle il influe.
Et alors au niveau de la gestion des entreprises, et c'est un thème récurrent dans plusieurs articles du recueil des éditions ouvrières, cela entraîne une séparation entre propriété et gestion.
Alors,
cela peut entraîner.
Le problème, c'est que même si ces grandes entreprises ont été fondées par un homme ou une équipe, la masse même des capitaux, l'importance des décisions, la complexité des décisions fait qu'il y a à la fois dilution du capital, donc perte par les propriétaires initiaux du contrôle de leur entreprise. Et deuxièmement, c'est moins un homme qui est à la tête de cette entreprise que des équipes et qu'il y a donc une sorte d'autonomie croissante, une séparation entre le capital, qui est l'ancien pouvoir, et la gestion, qui est quelque chose de plus quotidien ou de plus planifiant selon la perspective temporelle que l'on donne à leur gestion.
Mais à partir de quand peut-on dater cette apparition et ce renforcement des entrepreneurs salariés prenant un pouvoir de plus en plus grand aux dépens ou à côté des propriétaires du capital?
Ben ça, c'est très difficile à dater parce que, mettons qu'en Allemagne et aux États-Unis, la révolution industrielle de ce type, c'est-à-dire l'émergence de vraiment grandes entreprises, se fait à hauteur de 1900-1910, tandis qu'en France, Renault, que Patrick Fridançon a étudié, passe de 6 000 à 20 000 ouvriers pendant la Première Guerre. Et donc, moi, je mettrais les années 1920, d'autant que les grandes fusions d'entreprises en France, par exemple l'époque où Rhône-Poulenc est créé, c'est la fin des années 20. C'est au moment du krach de Wall Street, l'émergence en France de très grandes entreprises ayant, si je prends Peugeot au début des années 30, 15 000 actionnaires, 15 000 ouvriers, c'est-à-dire quelque chose qui a un poids, mais en se gardant bien en tête fait qu'à cette époque-là, les grandes entreprises françaises font au maximum 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, alors que les grandes entreprises américaines font 1 milliard, 1 milliard et demi.
Est-ce qu'on ne peut pas remonter plus haut? Parce qu'il m'a semblé, à la lecture de certains articles, que dans le cas allemand, c'est presque dans le premier tiers du 19e siècle, on voit apparaître des entrepreneurs salariés. Dans le cas anglais, on cite les chemins de fer, les grandes compagnies de chemins de fer, comme gérées selon cette méthode.
Ça, c'est parce que je suis plus sensible à l'industrie, mais vous avez parfaitement raison. La grande entreprise moderne, elle vient avec le chemin de fer. Et donc, dans cet ouvrage, c'est très juste que l'on montre que le premier dirigeant salarié qui sert de modèle et de référence, c'est l'homme, le directeur général d'un chemin de fer, donc c'était dans le cas britannique. Et puis, il y a ensuite une série d'entreprises qui apparaissent à la fin du 19e siècle, peut-être moins en France que dans les autres pays, mais qui sont des grandes entreprises qui desservent le marché, précisément parce que le chemin de fer a ouvert la voie à la possibilité d'une intégration de certains secteurs de l'économie. Et puis, dans un troisième temps, qui est celui, moi, que j'ai plus en tête, c'est-à-dire les grandes entreprises françaises, c'est véritablement, disons, les années 1900-1930. C'est à cette époque-là qu'on voit apparaître ces très grandes entreprises dans l'industrie.
Patrick Fridens.
Oui, mais alors il y a deux questions qui se posent. La première, c'est est-ce que ces entrepreneurs salariés ont, dans les conditions nouvelles du marché que vous venez de décrire, un comportement substantiellement différent de celui des entrepreneurs propriétaires qui restent à la tête de leurs entreprises. Et là-dessus, l'exemple allemand qui est donné dans le livre publié par les éditions Ouvrières, celui de la comparaison entre les entreprises de l'électricité AEG d'une part et Siemens d'autre part, est un exemple assez frappant parce qu'il montre que, quel que soit leur présupposé personnel, ils finissent l'un et l'autre par adopter un comportement identique. Et alors, la deuxième question qui se pose, c'est de savoir quelle est la relation entre les détenteurs du capital dont vous avez évoqué dans certains cas l'effacement et les gestionnaires, les organisateurs qui travaillent pour eux, et d'autre part la relation elle-même entre ces entrepreneurs salariés et les entrepreneurs propriétaires.
Oui. Moi, je voudrais, en réponse à cela, dire que quand on regarde l'innovation du point de vue des hommes, je pense que ce qui est fondamental, alors là, j'utilise mon expérience d'historien du 19e siècle, c'est qu'au 19e siècle, il y a quand même une rotation dans les entreprises typiques, les industries typiques du 19e siècle. Il y a une rotation des hommes, qui, sauf, mettons, le patronat alsacien ou des patronats qui sont un petit peu atypiques. Tandis qu'au 20e siècle, avec ces grandes entreprises, l'entreprise, du moins c'est l'impression que j'ai, l'entreprise reste. Et il y a un renouvellement des hommes. Il y a une sorte de continuité, une sorte de stabilité profonde. Les entreprises sont si puissantes, elles jouent un rôle de quasi-service public, que les structures sont permanentes. Il y a donc une innovation, c'est que l'homme disparaît par rapport à l'entreprise. Et de même que je pense qu'en dépit de cette idée que les détenteurs du capital continuent à jouer un rôle, je pense que l'entreprise, c'est la structure fondamentale, et il y a donc renouvellement des dirigeants. Alors là, c'est regarder les hommes, leur comportement, leur fonction, mais c'est l'entreprise qui devient fondamentale, c'est elle qui structure le marché. C'est une notion très différente du 19e siècle, où on a un marché qui est servi par des petites entreprises qui se renouvellent. C'est ça l'élément novateur.
Michel Perrault.
Juste deux remarques à ce passage. Il me semble que Schumpeter, par exemple, témoin de ces transformations, disait à peu près cela quand il parlait d'un capitalisme. Il faisait l'hypothèse d'un capitalisme comme une espèce de moule dans lequel passeraient les hommes. Et finalement, est-ce que ça ne rejoint pas une des thèmes de Bourdieu dans l'étude qu'il fait, quand il dit propriétaire ou gestionnaire, un faux débat? Alors ça serait assez intéressant de discuter de cela, parce que au fond, est-ce que dans un sens, il n'y a pas le patronat comme milieu dirigeant, comme milieu d'affaires global, avec des hommes, des trajectoires individuelles qui traversent tout cela, et avec finalement une unité profonde qui demeure et qui est effectivement celle de l'entreprise milieu, l'entreprise patronale, etc. Enfin, je ne sais pas.
Oui, évidemment, important. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais je pense que sous ce débat, enfin, il y a des enjeux évidemment très très importants qui ne sont pas seulement scientifiques. Enfin, c'est pas par hasard si nous le rencontrerons tout au long de notre discussion. En fait, je voudrais prendre un exemple que je cite d'ailleurs dans mon papier. Il s'agit d'un témoignage publié dans un journal économique. Enfin, c'est un représentant de la grande banque protestante, enfin bon, qui venait d'être nommé comme manager dans une entreprise qui ne portait pas son nom et qui disait, vous voyez, je suis l'incarnation du manager moderne, enfin je suis là au nom de ma compétence, de mes titres universitaires, etc. Bon, et il mettait au second plan cette propriété capitale que j'ai dite en premier, à savoir qu'il venait de la banque à côté. Autrement dit, je crois que c'est là que se pose le problème même de la recherche, bon, et de l'objet de la recherche. Enfin, c'est-à-dire que ce qui fait problème pour nous, chercheurs, à savoir quels sont les critères pertinents pour décrire les patrons, c'est aussi en jeu dans l'objet même. Et le patronat donne de lui-même, selon les époques, des représentations très très différentes. Bon. Et ça, je crois, c'est une chose très très importante que la sociologie a toujours oubliée. Une classe sociale, c'est une représentation. C'est au sens théâtral du terme. Enfin bon, et je pense qu'il y a un théâtre patronal. Actuellement, le théâtre patronal veut nous donner l'image à travers les gens qu'il met en avant. Je pense à Ambroise Roux, etc. Il veut donner l'image du patronat compétent, dont l'autorité est fondée sur la science ou sur la technique, sur le mérite scolaire, etc., et non plus sur le titre de propriété. Autrement dit, on a remplacé comme principe de légitimation le titre de propriété par le titre scolaire. Le titre de propriété est devenu un petit peu honteux. Bon. Alors du coup, nous, sociologues, d'ailleurs, ça pose des problèmes. Je pense que l'historien a le même. Dans les biographies présentées dans le Ouzou, par exemple, il faut être très, très, très prudent, parce que c'est déjà une image construite. Enfin, les gens ne disent pas n'importe quoi. La profession du père n'est pas toujours la bonne. Il faut contrôler. Enfin, on vous donne la profession du père dans certains cas, dans d'autres cas, mais on ne vous dit pas la profession du beau-père, qui parfois est déterminante. Autrement dit, des tas de gens qui, du point de vue des critères avancés, bon, sont conformes à la définition officielle, c'est-à-dire gens compétents, polytechniciens, etc., bon, obéissent aux anciens critères, hein, et sont, par exemple, propriétaires par les femmes. Hein, bon, voilà. Alors, je pense que c'est tout à fait important. Pardon.
C'est peut-être là, quand même, que l'historien se distingue du sociologue. Je pense que vous dites justement qu'il y a des images permanentes du patronat, qu'il y a une hiérarchie permanente, avec des justifications qui changent selon le temps. Alors, j'en disconviens pas, mais je pense que le rôle de l'historien, c'est de restituer le temps et de structurer le temps, et de dire qu'il y a des contraintes successives qui font que les patrons n'ont pas les mêmes actifs pour justifier leur position, ne rendent pas les mêmes services, viennent éventuellement de milieux différents. Autrement dit, pour moi, il y a toujours eu une hiérarchie des élites dans la société, mais ces élites, elles ont changé à travers le temps, et c'est cela, moi je pense, la fonction de ce livre sur le patronat de la seconde industrialisation, c'est d'avoir voulu restituer cette évolution dans le temps du corps patronal, de montrer quand même qu'il y a des éléments de changement, que ça n'est pas par hasard que, mettons qu'il y ait un banquier qui à un certain moment intervient dans la gestion des entreprises, mais qu'il y a un temps où il est occulté, écarté, limité. Et c'est cela l'élément fondamental. Un historien, il doit expliquer le temps.
Mais on peut peut-être revenir à deux points concrets sur lesquels la démonstration que fait Pierre Bourdieu dans son propre travail peut nous questionner sur le terrain historique. Sur ce problème des entrepreneurs salariés, d'une part, est-ce que, comme il le suggère, c'est vraiment un salaire comparable aux autres salaires? Est-ce qu'il n'y a pas toute une série de modes de rétribution qui, en fait, les mettent beaucoup plus du côté d'une redistribution, d'une part, du profit que du côté d'un salariat au sens des employés ou des ouvriers? Et l'autre point, c'est le point de la transmission héréditaire qui dit entrepreneur salarié suppose une succession dans les positions qui n'auraient rien à voir avec les liens familiaux. Or, en fait, dans sa démonstration, il suggère que peut-être, maintenant en France, au XXe siècle, et dans les années 80 ou 70, mais historiquement aussi, des modes déguisés, cachés de transmission héréditaire ont pu exister même avec cette nouvelle situation. Alors, je ne sais pas, sur ces deux points précis, pensez-vous que ces arguments sociologiques portent ou bon, que...
Peut-être là, de nouveau, en m'excusant d'intervenir toujours, je pourrais dire quelque chose. J'ai fait une étude sur les salaires de la hiérarchie du travail à Saint-Gobain entre 1872 et 1912. Et donc, j'ai comparé les rémunérations des directeurs d'usine, des directeurs d'état-major, des membres du conseil d'administration, des ouvriers, du concierge. Et il apparaît que les entrepreneurs salariés, effectivement, gagnent bien leur vie. Et si l'on compare avec les salaires reçus par les dirigeants des chemins de fer pendant cette période en Angleterre, c'est pratiquement du même ordre. Je veux dire, les top managers, eh bien, ils gagnent 30 à 50 000 francs par an, ce qui est une somme considérable pour cette époque. Et à la fin du 19e siècle, en Angleterre, j'ai vu que 100 000 francs, c'est quand même une rémunération qui n'est pas rare. Mais, de nouveau, c'est là où je pense qu'il faut bien distinguer à travers le temps, ce ne sont pas les mêmes hommes qui reçoivent ces salaires, car les fonctions changent à l'intérieur d'une entreprise. Par exemple, en France, à la fin du 19e siècle, il y a une crise terrible qui a arrêté l'économie et qui a donné à la France un comportement différent des autres pays. Donc, à Saint-Gobain, à ce moment-là, qui gagne 50 000 francs ? Ce sont les chefs de dépôt à New York et à Londres. Et dans un deuxième temps, ce sont les ingénieurs qui reprennent le contrôle de l'entreprise et on descend à 30 000, 40 000 francs, ce sont les directeurs de production. Et donc, il y a une dans la hiérarchie, il y a l'entrepreneur salarié change de sens. Et ce qui a été montré, c'est que pendant tout ce temps, le représentant du capital qui siège au conseil d'administration, eh bien, il gagne beaucoup moins d'argent, il gagne 6 000 francs. Car ça n'est pas lui qui dirige l'entreprise. Il est là pour assurer la surveillance, mais l'entrepreneur salarié, il a un salaire, effectivement, qui est la juste rémunération de ses responsabilités dans l'entreprise.
Pour reprendre ce que vous disiez, Roger Chartier, peut-être, quand on monte dans la hiérarchie des élites, le salaire est simplement une partie de la rétribution.
Il y a le plaisir.
Non, le pouvoir.
Le pouvoir
qui ne se paie plus. Enfin, à ce moment-là, ce n'est plus le salaire qui est la rétribution, c'est autre chose. C'était finalement comparer un monde industriel de l'ouvrier au PDG uniquement du point de vue du critère du salaire, c'est se masquer le fonctionnement social. On est bien d'accord.
Tout à fait d'accord. Je vais donner une illustration, de ça. Enfin, dans une étude qui a été faite sur la haute administration française par Alain Darbel et Dominique Schnapper, bon, il est apparu que les gens avaient d'autant plus tendance à emporter leurs dossiers à la maison qu'ils étaient plus hauts dans la hiérarchie. Autrement dit, ils se surexploitaient, si on peut dire, d'autant plus. Enfin, qu'ils étaient situés plus haut. La preuve qu'il y a des gratifications qui ne sont pas celles qu'on pense.
Enfin, absolument. Oui. Je pourrais ajouter une pièce au dossier. Le fondateur de Unilever, le Trust, était un épicier né à Bolton près de Liverpool qui avait abandonné l'épicerie familiale parce que ça l'ennuyait et qui s'est retiré des affaires. Et puis donc sur le tard, il a créé son entreprise. Et il y a un texte tout à fait célèbre de lui lorsqu'il crée une partie de l'empire au Congo où il est en train de planter des arachides et où il dit que le profit ne l'intéresse pas, l'argent ne l'intéresse pas, mais que les affaires, son affaire, c'est sa vie parce qu'il y a un plaisir de faire des choses qu'il ne rencontre dans aucune autre activité. Et je pense que c'est la même chose. Il y a une dimension de la vie qui ne se mesure pas simplement au salaire et au profit, et qui est quelque chose qui est tout à fait réel.
Ce qui ne veut pas dire que les patrons oublient de s'accorder des avantages matériels non réductibles au salaire.
Mais absolument, voyons. Lorsqu'on voit la sortie des fonctionnaires polytechniciens de l'administration à la fin du 19e siècle ou après le second après-guerre, c'est le plaisir de participer à la création d'entreprises modernes, mais il y a aussi un élément matériel qui compte.
Et sur le point de la forme cachée de transmission héréditaire des positions, je crois qu'il y a dans un article d'un des collègues anglais qui participe au recueil des éditions ouvrières un exemple limite et en négatif qui paraît complètement illustrer ce point. Peut-être que Patrick Fridançon peut le raconter. C'est l'aventure du fils de Lord Citroën, qui était un dirigeant de la British Electricity Authority.
Et alors là, c'est un point qui est un point intéressant parce que Citrine était donc un leader syndicaliste ouvrier promu à la tête d'une entreprise publique, l'électricité de Grande-Bretagne, et qui a insisté très fortement pour que son fils ne devienne pas porteur de favoritisme et de privilèges pour rentrer dans l'entreprise.
Oui, son fils était devenu conseiller juridique par ses propres moyens, en quelque sorte, et lui, en tant que père dirigeant salarié de l'entreprise, a fait casser cette nomination, ce qui voulait dire qu'on ne pouvait pas ne pas penser que c'était par un jeu d'appuis familiaux que le fils avait eu cette position, ce qui renforce quand même tout à fait la perspective qui consiste à dire que des formes de transmission héréditaire peuvent exister alors même qu'elles n'ont aucun support légal, visible et extérieur.
Oui, mais je dirais alors, puisque j'ai étudié pour cet ouvrage le patronat de la très grande entreprise, c'est qu'il y a des cas de transmission héréditaire là où il n'y a pas détention du capital. Il y a des cas tout à fait visibles, mais relativement peu nombreux dans l'échantillon. Parmi les nouveaux dirigeants. Il y a les vieilles familles, mais il y a quand même peu parmi les nouveaux dirigeants.
Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a dans le nouveau patronat, dans ce patronat salarié, des stratégies familiales quand même globalement, jusqu'au-delà du monde patronal?
Il y a des stratégies familiales, c'est indéniable.
Oui, sur ce point...
Ça ne me paraît pas fondamental, mais c'est indéniable.
Oui, sur ce point tout à fait fondamental où nous sommes en ce moment, moi, il me semble qu'il y a quand même une différence de vision entre le patronat décrit par Louis Le Boyer et le patronat décrit par Pierre Bourdieu. Par exemple, Maurice Lévy-Le Boyer écrit « En trois générations, les fortunes industrielles se créent et se dissipent ». Au contraire, dans l'étude menée par Pierre Bourdieu, il est souvent insisté sur l'importance de la notion d'ancienneté. Le terme de noblesse, de famille de robe, de transmission intervient très souvent. Alors, qu'en est-il ?
Je pense qu'on en parlera tout à l'heure lorsque l'on regardera le patronat au sens large. Parce que l'échantillon utilisé par Pierre Bourdieu est différent du mien, mais je pense quand même que dans l'industrie, il y a des contraintes qui sont des contraintes d'efficacité industrielle qu'on ne rencontre pas dans les milieux plus larges qu'a étudié Pierre Bourdieu dans son échantillon. Là, c'est quand même quelque chose de différent.
Mais vous pourriez peut-être prolonger justement en essayant de montrer comment, dans l'article que vous signez précisément dans ce recueil, vous avez voulu souligner l'idée qu'il y avait un renouvellement vous dites partiel, une mobilité sociale que vous dites restreinte, mais qui tout de même veut l'image d'une, je reprends une autre expression, celle d'un nouveau patronat. Alors, comment menez-vous cette démonstration et lui voyez-vous des limites?
Le problème, il est très simple. Lorsqu'il y a transmission d'un capital financier ou un capital foncier, tout le monde sait qu'il y a permanence. Si on prend l'exemple britannique qui est le mieux connu, eh bien, les banquiers, les armateurs, les brasseurs, parce que la brasserie, c'est un domaine de pubs, eh bien, ce sont des gens qui transmettent héréditairement leur position. Tandis que moi, ce que j'ai cherché, c'est au niveau de la très très grande entreprise, donc les 30 plus grandes entreprises françaises, est-ce qu'il y a renouvellement des dirigeants? Puisqu'on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de mobilité vers le haut, prenons le haut et regardons si dans ces gens qui sont véritablement responsables du sort industriel du pays, eh bien, il y a transmission héréditaire des positions. Ma réponse à moi, elle est effectivement négative. Je pense qu'à ce niveau de responsabilité, il y a eu quelques cas de fondateurs qui ont transmis, ou quelques cas de dirigeants qui ont tellement élargi les entreprises qu'ils ont pu transmettre leur entreprise, mettons, à une génération et demie ou deux, mais ça me paraît un maximum. Et j'ai toujours été frappé du fait que lorsque mes jeunes collègues parlent de dynastie industrielle à ce niveau-là, eh bien, ils trouvent quand même pas beaucoup de générations. C'est pas comme les rois de France qui avaient 10 ou 15 générations. Si je prends le cas de Pont-à-Mousson où on a trouvé une dynastie, ils étaient deux. Et à la troisième génération, ça n'est plus, la dynastie est morte. Et je pense que quand même, à ce niveau de responsabilité, il y a mobilité.
Mais est-ce que cette mobilité n'est pas la figure d'une transmission statistique, comme le dit Pierre Bourdieu ?
Oui, alors moi je pense que c'est un problème, d'échelle. C'est-à-dire, je crois que le problème d'échantillon que vous avez soulevé à l'instant est tout à fait important, parce que moi aussi, dans un premier temps, j'avais commencé à prendre en compte les seules entreprises industrielles. Et il m'est apparu que, étant donné le mode de fonctionnement actuel de l'industrie et sa dépendance à l'égard de la banque, enfin bon, c'était une abstraction de ne pas resituer les patrons d'industrie dans l'espace complet des relations de production industrielle. Bon. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que il me semble que tout dépend de la manière, enfin, d'interroger ces modes de transmission du patrimoine. Bon, il est vrai que si on prend la définition ancienne de la transmission du patrimoine, à savoir un père de famille, enfin maître de sa propriété et maître de son mode de transmission, bon, ce mode de transmission est en régression. Bon, autrement dit, on peut dire que globalement, la classe dominante, c'est vrai, je crois, dans l'ensemble, enfin, la classe dominante dans son ensemble a perdu le monopole du contrôle de la transmission du patrimoine sous toutes ses formes. Bon, autrement dit, je crois qu'il y a un changement profond de la coutume successorale ou du mode successoral. Bon, alors, étudier les causes de cette transformation, c'est très intéressant, très long, très difficile. Je pense qu'il y a les luttes ouvrières, il y a les lois successorales qui sont le produit de ces luttes, il y a toutes sortes de choses. Bon, autrement dit, il y a une transformation profonde du mode de transmission du patrimoine. Il y a eu substitution d'un mode de transmission donc, dont la famille avait le contrôle complet à un mode de transmission dans lequel la famille doit compter avec une instance très importante qui est l'école. Bon. Alors, l'école, je crois, n'est pas complètement indépendante. Elle n'est pas aussi indépendante que le veut l'idéologie méritocratique. Bon, comme je l'ai montré dans d'autres travaux, le système scolaire reconnaît, d'une certaine façon, une forme de capital héréditaire, à savoir le capital culturel. Bon. Elle le reconnaît sous une forme inavouée, bien sûr. Bon. Donc, en se trouvant obligés de passer la main, en quelque sorte, au système scolaire, les dominants ne perdent pas complètement le contrôle. Ceci dit, d'une certaine façon, ils ne peuvent plus, par exemple, privilégier le fils aîné. Ils ne peuvent plus privilégier automatiquement le garçon par rapport à la fille. Ça, ils arrivent toujours à le faire. Enfin, bon, il y a un certain nombre de mécanismes simples que permettait le contrôle total, bon, qui ont disparu. Alors, c'est, je crois, très souvent, ce que l'on décrit comme un changement, comme une démocratisation ou comme un passage du propriétaire au gestionnaire, etc. Bon, pour ma part, je ne pense pas que tout se réduit à ce que je viens de dire. Hein. Je pense qu'une part des phénomènes qu'on décrit ainsi s'interprète comme un changement, au fond, tout simplement, du mode de transmission du pouvoir et des privilèges. Ouais.
Bon, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que vous avez dit en incidente qu'il y a une dépendance de l'industrie vis-à-vis de la banque. Alors, c'est peut-être vrai aujourd'hui, je connais mal le monde actuel. Mais historiquement, ça n'a pas toujours été constant. Et il faut bien que vous compreniez que dans les années 20, lorsque ces grandes entreprises françaises se sont créées, la banque est asphyxiée, anémiée. La banque n'a plus, après la guerre de 14, son pouvoir d'entraînement de la période antérieure. Et à ce moment-là, vous avez des groupes financiers qui se créent, mais qui se créent en créant leur propre banque avec des antennes à l'étranger pour importer des capitaux. Cette idée que la France a toujours exporté des capitaux et a toujours dépendu de ses banques, c'est une idée peut-être valable en histoire diplomatique, ça n'a pas de valeur en histoire économique. Et la deuxième, vous insistez sur les relations extérieures entre une hiérarchie de gestionnaires avec des forces qui influe sur l'entreprise. Mais il y a une autre idée qui a été mise en avant par les Américains et qui est l'idée de la structure de la hiérarchie. Lorsque vous avez une affaire qui est petite, vous avez une hiérarchie qui est verticale. Vous avez une pyramide avec le patron au-dessus et le patron, c'est le tyran, il prend les décisions et donc il peut servir d'intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. Les entreprises modernes, elles ont une hiérarchie en forme de verre de champagne. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus horizontales. Et je pense que les décisions deviennent collectives, les nominations deviennent collectives, et il faut un consensus interne. Et donc, je suis beaucoup plus sensible, non pas à ce qui vient aux possibilités de transmission d'un homme, mais à cet accord fondamental qui se crée au sein d'équipes dirigeantes. Et je pense que dans cet ouvrage, ce qui a été dit par Lantier sur la création de l'industrie électrique, la gestion de l'industrie électrique par des groupes très coordonnés, c'est quelque chose de très important. Je prends l'exemple du groupe Ampin. Édouard Ampin était un petit ingénieur bruxellois qui avait donné dans les chemins de fer secondaires et est passé à l'industrie électrique. Eh bien, l'équipe Ampin, dont Ampin n'était pas président, puisqu'il a passé sa vie simplement comme administrateur délégué de sa propre affaire, c'était un groupe de 11 hommes. Et je pense qu'à partir du moment où c'est une équipe dirigeante qui, de l'intérieur, gère des entreprises, c'est eux qui fondent la transmission. Il n'y a pas de transmission héréditaire. Alors, on peut avoir quelqu'un qui transmet le pouvoir, parce que il faut bien comprendre que dans ces entreprises, le président, pendant longtemps, c'est la figure de proue qui règle les relations avec l'extérieur, avec le marché financier, quand il y a un marché financier, avec les pouvoirs publics. Mais la gestion intérieure est faite par des hommes de carrière, des hommes de métier, et que là, il faut qu'il y ait le consensus de la base, et qu'il y a donc un poids réel de l'entreprise qui finit par peser sur le choix des âmes. Et donc, moi, je suis plus sensible à la logique de l'entreprise qu'à la logique de la transmission héréditaire ou la transmission par l'extérieur.
Oui, mais je suis très d'accord avec votre description. Et justement, je crois que les deux problèmes sont liés. En fait, la difficulté que nous avons, me semble-t-il, à comparer des états différents du recrutement social des dirigeants tient en grande partie à ça. C'est-à-dire que lorsque nous comparons, par exemple, les présidents directeurs généraux des 200 premières entreprises en 1980 avec les présidents directeurs généraux des 200 premières entreprises en 1950, bon, comme j'ai essayé de le faire. En fait, nous comparons des choses qui ne sont pas comparables, à la limite. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements dans la structure du personnel dirigeant. Bon, des choses qui étaient séparées ont été regroupées. Absolument. Bon, les regroupements changent de sens, en fait, d'une entreprise à l'autre. Dans certains cas, ils sont purement nominaux sur le papier pour des raisons que vous savez mieux que moi. Bon, on a besoin de paraître gros, mais dans la réalité, c'est séparé. Dans d'autres cas, les fusions sont réelles et le PDG est vraiment PDG, etc. Bon. Or, quand nous comparons que nous prenons ces gens avec leurs propriétés, en réalité, nous comparons deux structures de l'espace des entreprises et deux structures de l'entreprise. Bon, des cas, dans un premier cas, on peut avoir des individus dominant complètement leur entreprise, gérant enfin les relations internationales, en quelque sorte, de leur entreprise, avec plein pouvoir, etc. Et dans d'autres cas, nous pouvons avoir quelqu'un qui n'est qu'une sorte de président nominal, un porte-parole délégué, etc.
Permettez-moi de donner un exemple. Oui. À l'appui de cela, la Compagnie Générale Électrique, je reviens toujours à cet exemple parce que c'est celui qui me séduit le plus, a été fondée par Azaria, qui pendant 32 ans a été simplement administrateur délégué. Le président a été Paul Doumer. Et lorsque Paul Doumer a été assassiné, c'est l'administrateur délégué qui, juste pour un ou deux ans, est devenu président de sa propre entreprise. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. L'entreprise est gérée de l'intérieur par l'administrateur. Et il laisse un président qui est un homme d'un grand poids social assurer les relations extérieures. Et donc il ne faut pas se laisser prendre à l'idée qu'il n'y aurait pas, de nouveau, j'emploie le même terme, une logique de l'entreprise qui s'imposerait à la gestion et qui empêcherait, qui prendrait des décisions aussi de choix de personne.
Je voudrais revenir sur le rôle de l'école et des études supérieures, dont un des auteurs du volume, Hartmut Kelble, dit que c'est un des éléments distinctifs dans la seconde industrialisation. Alors, essayez de regarder un peu le cas français par rapport aux cas étrangers qui sont évoqués dans le volume. D'abord, on s'aperçoit que le rôle de l'école dans notre pays, en matière de renouvellement ou des fonctions ou du personnel patronal, est plus grand que dans d'autres. On est très frappé en lisant les études consacrées à l'Angleterre du fait que les ingénieurs sont formés sur le tas, que beaucoup de patrons ont une instruction, même jusqu'aux années 30 en Angleterre, qui est relativement restreinte par rapport aux patrons français. Donc, a priori, on a l'image d'une école jouant un rôle plus grand dans la société, dans l'économie française, que dans la société britannique. La seconde remarque, c'est sur le rôle de l'école en matière de renouvellement des origines sociales. Quand on lit dans le volume les études consacrées à l'Angleterre par Leslie Anna ou à l'Allemagne, on a l'impression que les entrepreneurs salariés qui ont une formation scolaire beaucoup plus grande que les entrepreneurs propriétaires sont généralement d'origine sociale supérieure. En lisant au contraire les articles de Maurice Lévy-Leboyer et de Pierre Lantier, on a l'impression qu'en France, l'école ne va pas dans le sens d'un renforcement du poids des classes supérieures, mais elle va au contraire dans le sens, nous dit-il, d'un élargissement vers certaines couches sociales ou vers certaines parties de la province du patronat. Alors pourquoi au fond cette originalité du patronat français sur le plan de l'école ?
Il y a deux choses que l'on peut dire. Premièrement, la croissance de la grande entreprise en France est différée de 10 à 15 ans sur le reste des autres pays, car dans l'Allemagne et aux États-Unis, l'Angleterre, c'est un cas à part. C'est le marché qui porte la grande entreprise. En France, le marché est à terre parce que l'agriculture est atteinte à la fin du 19e siècle. Et donc, les structures de grandes entreprises sont beaucoup moins qu'en Angleterre et en Allemagne le fait de négociants ou d'industriels de génie, mais des structures volontaristes. Ce sont des ingénieurs qui, de manière rationnelle, créent de grandes entreprises sur le modèle de ce qu'ils voient à l'étranger. Donc, à ce moment-là, on fait davantage qu'à l'étranger appel, non pas à des Rockefeller ou des Swift, on fait appel à des grands ingénieurs sortis des services publics. Et deuxièmement, pourquoi l'école joue un plus grand rôle en France ? Alors, moi, je prétends que les concours sont quand même beaucoup plus compétitifs lorsqu'on se destine aux carrières de l'État. Et ce qui, alors si on prend cet aspect scolarisation, l'élément peut-être le plus nouveau de ce que j'ai trouvé dans mon échantillon, c'est ce problème des multiformations. Les gérants des très grandes entreprises, ça c'est quelque chose que je n'avais pas perçu avant de faire cette enquête, sont non pas simplement des bottiers de l'X, mais des gens qui ont fait l'école d'application et qui généralement ont fait une école complémentaire. Et l'exemple de tous les fondateurs de grandes entreprises que j'ai trouvé et qui avaient fait donc l'X, les ponts ou les mines, plus le droit ou l'école de supérieure d'électricité ou l'école de chimie, on le retrouve à la génération suivante, car ces gens ont une aptitude à maîtriser non simplement le concours de leur spécialité initiale, mais des formations multiples. Pierre Bourdieu, dans son livre, cite des phrases que j'ai souvent entendues dans mon enfance, à savoir que dans ces familles établies, héritières du 19e siècle, l'école n'est pas tellement prisée. Or, à partir du moment où l'école est longue, où les examens ont été dès l'enfance maîtrisés par des enfants qui ont des qualités d'esprit, ils y acquièrent un affermissement de soi, une confiance de soi qui leur permet d'aller plus loin. Et l'école étant longue, elle avantage les gens qui viennent de milieux défavorisés, elle désavantage les fils de famille. C'est quelque chose qu'on ne perçoit pas.
Oui, mais là encore, est-ce qu'il ne faut pas peut-être rapporter cette élévation du pourcentage de patrons qui ont une formation ou des diplômes supérieurs à une transformation de l'exigence de légitimation scolaire dans l'ensemble du champ social et rapporter, comme le faisait tout à l'heure Bourdieu sur un autre thème, cette changement de propriété d'un groupe à l'ensemble des changements de toutes les propriétés de tous les groupes. Et la deuxième chose, c'est peut-être la question sur laquelle nous pourrions terminer cette séquence, c'est ce passage qui est très frappant à travers plusieurs études, une domination dans ces entrepreneurs salariés de gens venus des grandes écoles d'ingénieurs, polytechniques, les mines, et même à un niveau plus modeste, les écoles d'ingénieurs régionales, un très bon exemple dans l'article de Caillès sur l'école centrale de Lyon, à un autre type d'entrepreneur qui est à la croisée, comme vous le disiez, de plusieurs formations, mais où la dominante est commerciale et administrative. Alors comment comprendre cette transformation qui est sûrement une de celles qui frappe le plus lorsqu'on lit le volume ? Michel Perrot.
Ce qui frappe beaucoup dans cette constellation de grandes écoles, c'est leur rôle différent au cours du temps, mais il y a tout de même quelque chose de très impressionnant dans les deux études, je dirais en gros, c'est Polytechnique et Sciences Po. Et ça, j'aimerais bien que les deux...
Oui, et un tout petit point auteurs, que je voudrais ajouter aux deux choses qui viennent d'être dites, c'est le rôle, le lien entre l'entreprise privée, enfin au sens traditionnel, et l'enseignement privé. Bon, et je pense qu'il y a eu un piège du privé. Je pense que les petites entreprises traditionnelles, enfin qui avaient à l'égard du système scolaire une espèce de réticence, voire de défiance, ont été piégées en quelque sorte par le privé, qui leur donnait des garanties, enfin de moralité, de vertu, etc. Bon, et ont un tout petit peu raté le changement du mode de reproduction. C'est-à-dire, ils sont arrivés un peu tard. Je pense que
des jésuites et des oiseaux.
Voilà. Alors, je pense qu'une part des choses qu'on constate dans les statistiques tient à ce retard. C'est-à-dire que pendant un certain temps, et je pense que c'est la génération de gens qui sont actuellement au pouvoir dans les grandes entreprises industrielles, bon, ces gens-là ont des propriétés familiales, par exemple religieuses, qui font qu'ils ont saisi plus vite l'intérêt du lycée par rapport à l'intérêt du privé. Bon, alors évidemment, ces choses changent. En ce moment, je pense que l'opposition publique-privé n'a plus du tout le même sens. Et le fait, par exemple, d'aller dans le privé n'est plus nécessairement un handicap s'agissant de devenir président directeur général. C'est-à-dire que dans 30 ans, on pourra avoir des relations inverses.
On a parlé de l'éducation, on a parlé du capital transmis, mais il y a quand même aussi quelque chose de très important qui n'a pas été dit, c'est la carrière. Car je pense quand même que, au moins au niveau où je me suis placé, c'est-à-dire les 30 premières entreprises françaises, c'est absolument nécessaire d'avoir à la tête de ces entreprises des gens qui ont prouvé leur capacité. Et l'un des éléments, alors, de l'analyse factorielle qui a été faite avec mes patrons, c'est que la carrière, c'est quand même ce qui détermine la réussite des individus. Il faut avoir fait ses preuves. Il y a des cas précis que je n'ai pas cités parce que je n'aime pas citer des noms, mais si je prends par exemple Jules Aubrin, qui a dirigé le groupe Schneider dans les années 30, qui était le fils d'un instituteur. Son père avait été inspecteur de l'instruction primaire vers 30-35 ans. Eh bien, c'est quelqu'un qui a été reçu major de l'X, donc qui était X-mine, mais qui a eu l'occasion de faire ses preuves, car il a été, quand il a quitté l'administration, on l'a envoyé dans le Donetsk, diriger une des filiales du groupe Schneider. Et cet exemple, on le retrouve de multiples façons. À égalité de titre, à égalité d'avantages familiaux, à égalité d'affinités religieuses ou d'école, celui qui prend les responsabilités majeures, c'est celui qui a montré sa capacité à diriger, à résoudre des problèmes collectifs, à juger des situations, à prendre des initiatives. Et en regardant les fiches individuelles, encore une fois, et sans citer de nom parce que j'ai voulu m'abstenir de le faire, j'ai toujours eu l'impression que c'était ceux qui ont triomphé, quelqu'un comme Champin par exemple. Ce sont des hommes qui ont montré une aptitude particulière, soit à créer des multinationales, soit à développer un outil de production ou une technologie nouvelle. Et je pense que cet aspect carrière, on l'oublie trop quand on regarde ce patronat. Il y a à la fois la hiérarchie qui pèse sur les décisions et il y a les qualifications acquises par les individus dans leur vie de travail.
Oui, mais Pierre Bourdieu, ce déplacement, par exemple, des écoles d'ingénieurs vers les écoles administratives, d'une part, transforme ce que l'on attend de la notion de compétence, et d'autre part, est-ce qu'elle n'a pas un autre effet qui est une valorisation plus immédiate du capital culturel ? C'est-à-dire que la distance entre la compétence au sens technicien ou pédagogique est réduite. Et vous donnez dans votre article un texte très amusant qui est un commentaire de l'oral de l'ENA sur l'épreuve de conversation et qui, là, est très difficile à ranger du côté de la compétence, si l'on entend dans le sens technique, et beaucoup plus du côté d'une compétence culturelle ou sociale.
Pour caricaturer un peu enfin, les thèses que j'ai soutenues dans l'article, je voudrais évoquer un problème qui a l'air plaisant, mais je crois très sérieux, qui est celui de l'accent régional. Bon, je pense que je suis sûr que c'est une des variables déterminantes. Enfin, si j'avais pu coder dans ma population enfin, les gens avec accent et sans accent, je suis persuadé que ça aurait été une des variables les plus puissantes. Bon. Et dernièrement, bon, j'écrivais un petit texte sur les problèmes nationalisme et régionalisme, et j'ai repris toutes mes enquêtes sur les grandes écoles, où, bizarrement, c'est sûrement une forme de refoulement, je n'avais pas codé l'origine régionale. Bon. Et j'ai recodé l'origine régionale, et j'étais très très frappé de voir que la hiérarchie des grandes écoles, du point de vue de la distance, enfin, au pouvoir économique, correspondait à la hiérarchie des probabilités d'apparaître pour les provinciaux. Quoi. Bon, autrement dit, je pense que, et on retrouverait là le rôle de la conversation à l'ENA, enfin, parmi les choses qui sont jugées à l'ENA, il y a des choses très très importantes. C'est-à-dire, il y a évidemment le texte écrit à l'air dérisoire, bouffon, ridicule. En fait, ce sont de magnifiques entretiens d'entreprise. Enfin, bon, et une part énorme du recrutement se fait sur la même base. C'est-à-dire, on mesure en fait l'accent, on mesure la qualité de la cravate, on mesure l'attitude à l'égard des entreprises. Par exemple, quand tu es dans l'interview citée, là, je ne sais pas si c'est celui-là, mais j'en ai lu tellement, on demande aux mais si vous étiez dans votre petit village, où prenez-vous vos vacances? Avez-vous une résidence secondaire? Ce qui est déjà une France. Bon, dans ce village, avez-vous des contacts avec la population? Envisageriez-vous d'être maire? Bon, alors, ça, ce sont des questions que traditionnellement, on plaisante. Enfin, c'est, par exemple, les normaliens, vous êtes dans la lutte entre les écoles, bon, il y a des images réciproques. Bon, les normaliens ont l'habitude de plaisanter le concours de l'ENA comme un truc pas sérieux. Alors qu'en fait, il se passe des choses très, très, très sérieuses. Et avec ça, on élimine les normaliens. Parce qu'ils ne savent pas à quoi répondre quand j'ai dit, voulez-vous être député?
Dernier mot.
Moi, j'ai peut-être à juste raison. Un normalien n'est peut-être un intellectuel tout à fait brillant, mais ce qu'on attend d'un administrateur, et c'est comme ça qu'on le sélectionne à l'ENA, c'est d'être un homme capable de vivre une vie collective au sein d'une organisation, de comprendre ses collaborateurs ou ses subordonnés, et d'avoir un pouvoir de stimulation et de conciliation. Il y a quand même une attitude différente. Le patron de la petite entreprise, avant, c'était un activiste. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, le patron de ces grandes masses, qui ont peut-être 80 000 ouvriers, ils ont une attitude différente, et c'est peut-être leur aptitude sociale qu'il faut privilégier.
Ça veut dire que les relations publiques font partie du travail, que ce soit de la réunion du conseil d'administration, au thé, enfin ils ne prennent pas beaucoup de thé, enfin l'apéritif, cocktail, etc. Enfin bon, la conversation, c'est très important.
Dans cette émission consacrée au patronat et à laquelle participent Michel Perrault, Pierre Bourdieu, Maurice Lévy-Leboyer et Patrick Fridençon, nous avons essayé jusqu'ici de mesurer quels avaient été les effets des transformations du champ économique et de la structure des entreprises sur le groupe qui les dirige. Et il est clair maintenant que l'apparition et la multiplication des entrepreneurs salariés, directeurs non propriétaires de leur entreprise, ne doivent pas être tenus pour des facteurs qui auraient modifié radicalement le milieu patronal. Nous allons pourtant retrouver maintenant, mais sous une autre forme, sous une autre modalité, l'opposition entre les propriétaires d'entreprises privées et les patrons placés à la tête de grandes sociétés contrôlées par l'État. Et nous allons la retrouver, cette opposition, parce que dans votre enquête, Pierre Bourdieu, c'est cette différence qui fonde les oppositions les plus nettes que vous avez pu repérer, classer, distribuer entre des types de patrons et des types de patronats.
Oui, alors évidemment, cette opposition, au moment même où je vais l'énoncer, je dois tout de suite la relativiser. Enfin, elle n'est pas absolue, c'est un espace continu, enfin, qu'on peut découper arbitrairement, en disant il y a d'un côté les gens qui sont liés au privé, c'est-à-dire qui sont plutôt propriétaires de leur entreprise, qui ont fait plutôt leurs études dans le privé, qui sont plutôt maître du contrôle de la reproduction de leur propre entreprise. C'est de ce côté-là qu'on trouvera le plus de gens liés par des relations de parenté aux propriétaires antérieurs, etc. Bon, et on aura donc de l'autre côté de l'espace des gens plus liés à l'État, à la fois par leur titre scolaire, qui sont, comme chacun sait, garantis par l'État, acquis dans des institutions étatiques. Ce sont des gens qui ont fait plus souvent leurs études dans des établissements publics. Autrement dit, sont aussi plus des personnages publics. Alors ça, je crois, c'est une chose très importante. Ce sont eux qu'on voit à la télévision le plus souvent. Ils sont plus montrables dans un état déterminé de la représentation que le patronat veut donner de lui-même, mais aussi plus montrables parce qu'ils ont plus de ces compétences, enfin, qu'il faut avoir pour parler à la télévision, par exemple, pour défendre les intérêts collectifs de l'entreprise. Bon, alors cette opposition-là, donc, qui est très multidimensionnelle, enfin, est tout à fait centrale, je crois. Elle est à la fois dans la réalité et, si je puis dire, dans les cerveaux. Bon, c'est-à-dire que je pense que toute lecture, par exemple, des débats au sein du CNPF, toute lecture des polémiques, enfin, par exemple, sur le système d'enseignement, etc., bon, fait voir immédiatement le rôle déterminant que joue l'existence de deux représentations du patron et du rôle convenable, en quelque sorte, du patron. Bon, le patron public, qui est actuellement dominant, enfin, au moins sur le plan, j'allais dire idéologique, sur le plan des représentations, le patron public est, je crois, en mesure actuellement d'imposer ses normes. Bon, en particulier dans le rapport avec l'État, dans la négociation avec l'État, dans la définition du rôle du chef d'entreprise, dans la négociation des conflits sociaux, etc., etc. Bon. Ceci dit, je pense qu'il faut se garder de réifier cette opposition et surtout de l'éterniser. Je pense qu'elle correspond à un État à la fois des structures économiques et de l'État, si je puis dire. Bon.
Effectivement, le patron moderne est un personnage public, comme vous dites. Mais parce qu'il joue beaucoup plus que par le passé une fonction publique, il ne se contente pas simplement d'être un producteur, et de plus, il faut qu'il ait des moyens d'asseoir son autorité vis-à-vis d'un état-major qui est de plus en plus compétent, et il n'a plus le monopole de la compétence comme autrefois. Mais il y a... à cela qui est une idée générale, quelque chose de particulier, c'est qu'il faut quand même de nouveau revenir à l'expérience qui est valable en France et en Allemagne, à savoir que la bureaucratie, c'est une source de patrons et un modèle de comportement patronal. Et je reviens alors de nouveau à l'expérience antérieure, à l'expérience historique. Quand même, beaucoup des patrons sont issus de manière traditionnelle de la fonction publique, parce que ce sont des ingénieurs d'État que les grandes entreprises, pendant très longtemps, ont eu à fonctionner avec des marchés pour l'État, que ce sont des ingénieur du génie civil, et que ça a créé une certaine image du patron, parce que, encore une fois, moi je suis plus sensible au patron des grandes entreprises telles que nous les connaissons, et le patron qui sert le marché. Et donc, dans la dichotomie que vous avez faite dans votre étude, entre le patron du privé et le patron du public, je pense qu'ils ont des fonctions qui sont différentes. Le patron du privé tel que vous le décrivez, c'est beaucoup plus facilement un petit patron qui fournit des produits alimentaires ou des chaussures, tandis que le patron de type entreprise publique, eh bien, c'est quelqu'un qui fait des travaux publics ou des constructions mécaniques ou électriques.
Mais peut-être Patrick Fridançon peut éclairer un peu ce débat dans la mesure où lui, qui travaille sur Renault, travaille sur une entreprise qui, d'elle-même, passe du pôle privé au pôle public. Et est-ce que la différence des propriétés du groupe patronal qu'identifie Pierre Bourdieu se retrouve lorsque l'on passe d'un stade de l'entreprise à un autre? Est-ce que les différences de compétences qui sont requises se modifient, ou au contraire, sur une seule entreprise, on ne peut pas observer ce grand schéma d'opposition?
Alors moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Maurice Lévy-Leboyer sur le fait qu'il y a des transferts de l'image du service public à l'intérieur du service privé au sein de la grande entreprise bureaucratique. Il n'en reste pas moins que, sans vouloir jouer les conciliateurs, l'exemple qui n'a aucune valeur statistique de l'entreprise Renault va tout à fait dans le sens observé par Pierre Bourdieu. Si on prend le temps où l'entreprise est privée, le dirigeant principal, Louis Renault, appartient à une famille de moyenne bourgeoisie qui dirige une entreprise textile moyenne de la région parisienne. Et à l'origine des temps, c'est une famille de riches laboureurs de la région de Saumur. Il n'a fait que des études secondaires, il a échoué au concours de l'école centrale, et dans le recrutement de cadres dirigeants de l'état-major auquel il va procéder, il recrutera principalement des gens qui ont grimpé sur le tas, et les seuls dont il admet qu'ils aient fait des études supérieures, c'est soit des membres de sa famille, par exemple l'administrateur délégué François Loïdeux qui a fait Sciences Po, soit des gens qui ont fait l'école des arts et métiers parce qu'elle remplit des fonctions très définies dont la compétence est requise au niveau de la production, et à l'époque au moins, elle a un recrutement d'origine assez modeste. Inversement, quand l'entreprise est nationalisée en 1944-45, le premier PDG, Pierre Le Faucheux, d'une part, va poursuivre un recrutement important d'ingénieurs passés par des écoles plus hautes que les arts et métiers. D'autre part, lui-même est centralien et docteur en droit. Et donc une orientation à dominante industrielle extrêmement claire, qui correspond à un stade de l'économie, qui est bien le stade de la reconstruction et en même temps la dynamisation de l'économie française dans l'après-guerre. Et lorsque Pierre Dreyfus lui succède en 1955, on a là quelqu'un qui est d'origine sociale encore supérieure. Il appartient à une famille de banquiers et de banques liées au commerce. Il a fait des études supérieures très complètes. Il est auditeur du Conseil d'État, puis inspecteur de la production industrielle. Donc là, il vient directement des milieux de la fonction publique, alors que Le Faucheux, lui, vient, disons, du secteur privé. Et un point sur lequel j'insiste, il connaît bien les langues étrangères. Et ses parents lui ont fait faire, après son baccalauréat, 2 ans de stage dans la banque londonienne à la City, où il a acquis toute cette teinture d'ouverture à l'économie internationale, qui sera son principal cheval de bataille. Et ça correspond à une période de l'économie française, qui est celle de la grande ouverture au marché mondial, où il s'agit de planifier et de vendre. Et enfin, le successeur actuel, Bernard Vernier-Paliez, a fait l'école des hautes études commerciales et donc a toutes les cartes qu'il faut pour le destin international de la grande entreprise publique dans ce moment-là. Alors voilà un peu une contribution.
Une autre chose me frappe dans ces rapports du public et du privé, c'est leur interconnexion. Et il me semble que dans votre étude, c'est très important. On a l'idée finalement que la famille, c'est un peu balzacien, c'est vieilli. Il me semble que sous des dehors beaucoup plus subtils, beaucoup plus complexes, le privé est très souvent interconnecté au public. Que, tout au moins dans le patronat que vous décrivez, qui est encore une fois le milieu d'affaires, il y a des constellations de relations, des rencontres privées qui sont souvent porteuses des décisions publiques, et que finalement, il y a des rôles. Vous montrez très bien, moi j'étais très passionnée par cela, par exemple, naturellement, le rôle des mariages et des alliances qui perdurent de nos jours. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement terminé, loin de là. Et d'autre part, dans les familles, par exemple, le rôle des femmes. Les femmes ont un rôle dans cette vie du patronat qui est, bon, plus subtil peut-être que celui du 19e siècle, mais enfin qui n'en est pas moins très présent. Et si l'on va plus loin, les clubs où se rencontrent tel ou tel obéissent aussi à une géographie et à des correspondances extrêmement subtiles. Vous montrez la différence, que je vous laisserai éventuellement le soin de préciser, pour nos auditeurs, entre le jockey club ou le club de l'automobile. Tout cela, qui correspond à ce que vous appelez des styles de vie, l'habitus, comme vous dites, établit ces relations entre le public et le privé. Il ne s'agit pas seulement, me semble-t-il, d'un patronat public, d'un patronat privé, mais d'encore quelque chose de beaucoup plus compliqué.
Oui, sur ce point, il y aurait énormément à dire, parce que c'est d'ailleurs ce qui fait la difficulté du travail scientifique. Au fond, plus la connaissance de ce milieu progresse, et le progrès est très difficile, parce que c'est un milieu très secret, plus on découvre de connexions. Et moi, je pourrais dire que ce que j'ai écrit, je crois, est vrai a fortiori, bon, étant donné que chaque jour, enfin par exemple j'ai dans mon exemplaire de l'article que je compte un jour republier dans un travail d'ensemble sur la classe dirigeante, bon, déjà toute une série d'ajouts, enfin d'informations qui me tombent tous les jours sous les yeux, que je recueille par hasard. En fait, il y a un nombre énorme de liaisons, avec tous les sens du terme, enfin bon, et ce que je reproche souvent aux économistes, c'est qu'ils prennent le mot liaison au sens uniquement liaison financière, alors qu'en fait, je pense que les liaisons familiales ou les liaisons amoureuses, enfin bon, ont une importance au moins aussi grande. Enfin, je n'hésite pas à le dire, quitte à choquer certaines formes d'économisme qui ont cours très souvent chez les gens qui étudient ces objets-là. Ces liaisons ont une importance fantastique. Enfin, bon, évidemment, elles sont très souvent insaisissables, presque par définition. Et je pense qu'il y a tout un travail dans les grandes familles bourgeoises, un travail d'entretien de la famille, enfin d'entretien des relations familiales, bon, qui n'est pas vécu comme tel, mais je pense au travail qu'a fait Monique de Saint-Martin dans le prolongement de celui-ci sur la famille des Brissac, où elle a montré que ce que nous, souvent en tant que non-membres de ce milieu, nous décririons avec un sourire comme des frivolités, enfin, c'est-à-dire les mondanités, c'est un véritable travail, enfin, autrement dit, pour se reproduire, enfin, pour se perpétuer, pour se conserver, pour perpétuer leur image, etc. Ces familles doivent entretenir un réseau de relations, ce qui demande un travail, enfin, dans les sociétés primitives, enfin, bon, les échanges de dons, etc., bon, tiennent toute la société. Je pense que la classe dominante ressemble beaucoup à une société primitive.
Le monde, c'est très sérieux.
Alors, je voudrais peut-être intervenir là-dessus en faisant 2 remarques. Premièrement, sur ce qu'a dit Patrick Fridençon, la recherche à la tête de Renault devenue entreprise publique de président ayant une formation, une ouverture commerciale, je ferai remarquer qu'une fois de plus, quel que soit le statut de l'entreprise, c'est le marché, le type de production qui joue un rôle déterminant. Et si je prends la famille Peugeot, il me semble que l'un des dirigeants de Peugeot, d'immédiatement après la guerre, avait fait ses études dans les années 30 à la Harvard Business School. C'était un petit peu plus relevé que d'autres patrons, mais si je prends l'industrie sucrière ou le verre creux, j'aurais de nouveau des dirigeants d'entreprise qui ont une formation qui n'est pas à l'X. Je crois que M. Belac, c'est le premier X qui soit arrivé chez Peugeot, et je pense, chez Renault, pardon, et je pense qu'il n'y a pas de doute que là, il y a une pression du marché qui est indépendante du statut public-privé. Mais puisque vous avez ouvert le chapitre des familles, peut-être que je devrais dire un mot pour exprimer d'une manière assez générale, mais courtoise, mon scepticisme. Je pense que quel que soit le milieu, les mariages se font entre des gens qui ont la même expérience d'enfance, la même expérience de milieu, et dans l'échantillon des patrons que j'ai étudiés, après tout, quand des filles ou des fils de grandes familles bourgeoises se marient entre eux, j'y vois aucun avantage concret, ça me paraît dans la logique des choses. Mais ce que je voudrais indiquer, qui me paraît quand même très fondamental, c'est qu'il faut comprendre que lorsqu'il n'y a pas de marché financier, au XIXe siècle, les familles sont des moyens, des substituts à des réseaux financiers. On finance les entreprises par les familles, par relation, que d'entreprises au XIXe siècle sont créées comme ça. Et deuxièmement, lorsqu'on a des firmes à succursales à travers le monde, on utilise des réseaux familiaux ou des réseaux religieux. Si la banque est protestante, c'est parce qu'il y a une certitude, une confiance qui ouvre la possibilité d'avoir un agent à Canton et qui ne vous vole pas. Et donc, il y a des mariages qui, au XIXe siècle, ont une fonction de reproduction, comme vous dites, des entreprises, mais à partir du moment où il y a un marché financier, un réseau bancaire, des écoles qui vous fournissent des jeunes gens capables de remplir des postes, je pense que ces liens de gestion des familles perdent beaucoup de leurs contraintes, et moi je suis, pour l'époque contemporaine, finalement un petit peu plus sceptique que vous n'êtes.
À côté des relations familiales, à côté des clubs, il y a toute une série d'autres institutions qui introduisent des solidarités entre public et privé. Je voudrais donner deux exemples. Le premier, c'était entre 45 et 55, chez Renault. Pierre Lefaucheux réunissait tous les mois un déjeuner qu'il appelait le déjeuner des optimistes, qui était le rassemblement des gestionnaires publics et privés, fonctionnaires ou patrons, qui croyaient à la renaissance de la France, comme on disait à l'époque, et qui était destiné à former une sorte de coalition à la fois à l'intérieur de l'appareil d'État et à l'intérieur du patronat, dont Pierre Bourdieu a mille fois raison de dire qu'il est un champ de lutte perpétuelle entre fractions, pour imposer une certaine idée de la France. Et l'autre exemple m'est fourni par la biographie de Marcel Boussac qu'une journaliste, Marie-France Pocna, vient de faire paraître, qui explique le rôle fondamental, alors qu'on pourrait le croire tout à fait dérisoire, de la chasse. Boussac tient plusieurs fois par an dans son château de Mi-Voisin, aussi bien au long des années 30 que des années 40 que des années 50 et encore des années 60, une chasse qui correspond à un rituel très bien réglé et où il y a une dose régulière de patrons, de hauts fonctionnaires et d'hommes politiques. Et on s'aperçoit qu'au cours de cette chasse, il y a des moments où Boussac prélève à table ou dans les salons tel ou tel avec lequel il s'entretient, et il fait également se rencontrer toute une série de personnes. Et sans du tout jouer à une description de type machiavélique, il y a là, si vous voulez, une stratégie d'alliance, d'union libre, de rencontre, on pourrait utiliser tous les termes, qui est extrêmement solide, et on le sait fort bien qu'il n'est pas le seul homme d'affaires à utiliser ce type de situation. Au-delà, il me semble qu'il y a dedans à la fois une stratégie d'utilisation immédiate et en même temps quelque chose qui fait partie de l'image publique du patron qui est magnificent, philanthrope, sportif, ce qui le raccroche, une fois de plus, à des modèles assez traditionnels du dirigeant ou du dominant.
Oui, je crois qu'il est important de mettre en place l'image du patronat. Je voudrais simplement, pour qu'on donne le point sur cette discussion, je crois par rapport au point de départ qui était cette polarisation qui rend compte des différences de propriété des groupes patronaux entre privé et public, nous arrivons à une lecture qui se complexifie puisque on s'aperçoit, et ça prolonge la remarque qu'avait fait Michel Perrault, que dans une stratégie fondée sur la famille, le titre scolaire peut avoir une importance, et c'est pourquoi souvent dans les auteurs, dans le recueil des éditions ouvrières, ont montré qu'à la deuxième ou la troisième génération, il y avait obtention de titres scolaires, même dans le cadre d'une transmission héréditaire du capital. Et inversement, tout ce qui vient d'être dit montre que dans une stratégie fondée sur l'école, fondée sur la solidarité de corps, la rentabilisation du titre n'est possible qu'à travers tous ces lieux d'institutionnalisation où le familial, où le social s'investit totalement. Enfin, vous êtes d'accord, Pierre Bourdieu ?
Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, par exemple, ces lieux, ces rencontres, le plus souvent informelles, je pense que les relations, les rencontres les plus importantes sont les moins préparées, les moins aménagées. Et là, il faudrait s'entendre sur le mot stratégie que j'emploie parfois et qui est entendu comme comme calcul. Etc. En fait, les meilleures stratégies dans tous les univers sont les plus inconscientes, enfin les plus celles qui vont de soi, enfin celles qu'on fait par la naissance, en quelque sorte, dont on a acquis les principes au berceau. Enfin, bon, les stratégies matrimoniales sont tout à fait de ce type. Enfin, bon, c'est sûr que les rencontres dans toutes les civilisations, enfin, sauf lorsqu'il y a intervention brutale de la famille, enfin, sont vécues comme coup de foudre, ce qui n'empêche pas que, rétrospectivement, elles puissent être décrites comme nécessaires et commandées par des lois sociales, et même par des intérêts objectifs, enfin, bon, aux accidents près, comme toujours. Bon. Je pense qu'un autre point aussi intéressant, du point de vue des stratégies des familles, on peut se demander comment se fait-il que les familles passent en quelque sorte à travers les régimes, à travers une grande coupure, comme a été la coupure des années 40. Enfin bon, on sait dans quel camp était le patronat français, enfin comment les choses sont passées, etc. Comment se fait-il que, malgré des coupures de ce type, on puisse retrouver des continuités, c'est-à-dire je ne suis pas historien, mais enfin des noms qui remontent très loin. Je pense que une des manières de se perpétuer pour les familles, c'est d'avoir, si je puis dire, un portefeuille d'actions très diversifié. Bon, et ça ne peut se faire qu'à l'échelle d'une famille. Enfin, quand on a un grand avocat, un grand médecin, un pianiste, un architecte, deux banquiers, on traverse les régimes. Enfin, bon, et ça, je pense que c'est très, extrêmement important. Alors ça, évidemment, c'est pas perçu comme une stratégie. Il n'y a pas une araignée qui trisse sa toile et qui dit, bien qu'il arrive que certaines mères de famille, enfin, bon, jouent un rôle très important. Parce que elles ont acquis sur le mode tout à fait inconscient ce rôle d'agent de liaison. Enfin, bon, et elles savent organiser un dîner, mettre côte à côte les gens qui sont à marier, mariables, promis, etc. Bon, je pense qu'il y a à la fois donc des mécanismes tout à fait objectifs et aussi des interventions stratégiques quasi conscientes qui permettent aux grandes familles de se perpétuer à travers les crises.
En toute innocence, une question, est-ce que c'est vrai que ces familles se perpétuent ? Et est-ce que nous ne sommes pas sensibles au fait qu'un certain nombre de familles, effectivement, ont joué un rôle important dans l'industrie à une époque où l'industrie n'était pas aussi structurée qu'aujourd'hui, mais que ces grandes familles, peu à peu, se sont diluées et ne jouent plus le rôle d'antan ? Si on prend les maîtres de forge, il existe en Angleterre une excellente étude de Mrs. Erickson qui est une comparaison entre les bonnetiers d'une ville de province et les maîtres de forge. Les maîtres de forge se sont transmis les aciéries britanniques de famille en famille. Tout d'un coup, ils ont disparu dans les années 30. Complètement terminé. Nous venons d'assister à une crise de la métallurgie. Et je ne crois pas quand même que ce soit encore les devins d'elle et quelques familles comme les Schneider, qui eux ont disparu plus tôt, qui dominent encore la métallurgie. Si je prends même le comité des forges à la veille de la guerre de 14, il n'y avait sur une quinzaine de membres que 3 représentants des familles traditionnelles. Ils étaient déjà en train de perdre la face. Alors, nous, historiens, nous aimons bien, parce qu'on nous a appris les personnages et que le héros, c'est très pratique pour faire des cours, on aime bien réutiliser et passer de l'histoire bataille à l'histoire des familles. Mais moi, je ne suis pas du tout certain que les familles continuent à jouer aujourd'hui le rôle d'antan. Et on prend toujours, et c'est là où je pense qu'il y a un problème d'échantillonnage, et c'est le point fondamental de différence entre Pierre Bourdieu et moi, c'est qu'à partir du moment où on prend les banques, la banque étant quelque chose de
Le banquier ne prend pas de risque par nécessité puisqu'il protège le capital de ses clients. Alors donc il y a une transmission, une stabilité des banques qui d'ailleurs, il ne faut pas exagérer car ils font faillite comme tout le monde. Mais enfin, il y a une stabilité des familles financières qui ne se retrouve pas dans le reste de l'industrie. Et alors, pour quelques fabricants d'automobiles ou de biscuits ou de sucre, et d'ailleurs on s'aperçoit lorsqu'il y a une bataille pour une firme de sucre que le nom de la famille existe toujours, mais la famille n'a plus que 7% du capital, on se dit qu'on se fait quand même une illusion. Et moi, je pose encore une fois, en toute sincérité, le problème, est-ce que c'est vrai que cette bourgeoisie d'affaires qui, au début du 19e siècle, dominait parce que les notables dominaient le pays, est-ce qu'elle a gardé de manière pérenne cette aptitude à traverser les situations? Moi, dans l'étude que j'ai faite du patronat, j'ai cru qu'il y avait un arrêt du recrutement qui s'était fait parce que la crise des années 30 a été pire en France que dans les autres pays et qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu le renouvellement que l'on trouve aux États-Unis, par exemple dans l'étude de Mabel Newcomer. Mais je pense que peu à peu, les familles disparaissent et qu'elles ont joué leur temps. Et je reviens à mon idée, la famille est un substitut de marché financier. À partir du moment où le marché financier est là et les familles, les grandes entreprises ont leur autonomie financière, les familles ont une beaucoup plus faible utilité que par le passé.
Un mot sur ce point. Je pense que le problème d'échantillon que vous soulevez est capital aussi. Et je me demande si une part des disparitions n'est pas apparente et ne tient pas au fait que nous prenons des échantillons trop serrés. Autrement dit, je pense par exemple au travail qu'a fait Christophe Charles, enfin, quoi, qui est tout à fait, il le dit lui-même, enfin, un début, etc., bon, a au moins le mérite de poser le problème de l'étude d'ensemble de la classe dirigeante à un moment donné du temps. Parce qu'à ce moment-là, on peut suivre en quelque sorte des flux d'un secteur à l'autre. Et je pense que, de même que la classe dominante est un lieu de lutte permanente, c'est aussi un lieu de circulation permanente. Bon, il y a des déplacements d'un pôle à l'autre, d'un secteur à l'autre. Donc des familles peuvent disparaître dans la métallurgie pour reparaître dans la noblesse d'Europe. Ou...
Je crois qu'on peut peut-être aussi maintenant essayer de reprendre le fil que Patrick Fridançon avait commencé à tresser et qui était de... terminer les dernières touches de ce portrait collectif du patronat du XXe siècle par les images du groupe. Et je crois que l'on peut peut-être sortir un peu des conseils d'administration ou des univers familiaux pour voir ce que Michel Perrault a appelé dans la contribution qu'elle a donnée au recueil, le patronat de la seconde industrialisation, l'image de l'autre. C'est-à-dire que les images du patronat, toute une part, en est construite par des agents sociaux qui n'en font pas partie, et vous vous êtes attaché particulièrement à l'image que les ouvriers avaient de leur patron pour une période qui va jusqu'à la Première Guerre mondiale, à peu près.
Oui, grosso modo, si bien qu'il faudrait... Elle est un petit peu archaïque par rapport à notre débat de tout de suite. Et il serait intéressant de se poser la question de savoir si cette image a changé. Je vais la dresser rapidement pour ces ouvriers de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Il me semble que trois images globales, avec bien des variantes, apparaissent. Le patron est d'abord un despote, un tyran. C'est le phénomène du pouvoir qui frappe ses ouvriers et ils le décrivent souvent à travers les images du passé. Le patron monarque, le patron de la féodalité, ce sont des vocables qu'ils emploient. Deuxième série d'images, le patron est jouisseur. C'est un bon à rien, il ne sait rien faire, il est un rentier, il vit de son capital, l'image du financier est très forte, et alors comme il est un oisif, il mange et il boit, car le niveau de vie que ses ouvriers imaginent au patron est un niveau de vie relativement simple. Le patron est gros, c'est pas, il a un château, il se transporte en calèche et il a des femmes. Et à certains égards, c'est peut-être l'espèce d'image du nirvana matérialiste que les ouvriers imaginent quand ils rêvent, peut-être, au bonheur matériel, je n'en sais rien. Et puis troisièmement, le patron est un exploiteur. Il vit de la sueur du peuple, l'image est constante, c'est le patron vampire. Il y a même de très belles images de patron comme oiseau de proie dans la nuit obscure que traverse le prolétariat. Le patronat, le patron mange, boit, le sang des ouvriers mange la chair du peuple. Alors ça, c'est les grandes images classiques. Je dois dire que à la veille de la guerre de 14, ces images sont elles-mêmes mises en cause est discutée par le syndicalisme. Le syndicalisme dit, tout cela est vrai sans doute, mais il faut aller plus loin, car le patronat est en train de changer, et à certains égards on rejoint des choses que nous disons maintenant. Le patronat est en train de se donner des compétences, parce qu'il en a besoin au niveau des trusts internationaux. Alors nous, ouvriers, nous devons étudier le patronat. Nous devons savoir comment sont composés les conseils d'administration. Nous devons savoir comment est fait le lien du public et du privé. C'est presque des termes qu'ils emploient à l'époque. Et nous devons faire des monographies sur l'industrie métallurgique, la banque, etc. Alors là, on voit naître à travers l'exigence syndicale à la fois la nécessité de connaître le patron et peut-être d'autres images du patronat qui commencent à naître.
Oui, peut-être deux remarques. À ces images très négatives et de dénonciation vient parfois se croiser d'autres choses qui sont des restes de l'image du paternalisme et des traces des rapports sociaux d'Ancien Régime. Et vous donnez une phrase merveilleuse et tragique d'un ouvrier qui, en 1886, déclare « J'ai de l'estime pour mon patron, mais je voudrais bien le voir pendu. » Ce qui est à la fois investir l'ensemble d'une représentation des rapports sociaux d'Ancien Régime avec la conséquence logique de toutes ces images de dénonciation. L'autre point qui m'a paru très intéressant, c'est le fait de ce passage de la jouissance à l'intelligence, puisque dans ces textes syndicaux qui voudraient poser les questions presque comme nous les avons posées ce matin, essayer de comprendre comment des agents peuvent être des rouages d'un mécanisme, on gratifie le patronat après une phase où on l'a gratifié d'incompétence et d'être en retard technique et de mener l'industrie française à sa ruine, d'une capacité d'intelligence qui m'a fait penser à un petite note de l'article de Bourdieu où il signale qu'une chose qui avait fait très plaisir au patronat dans une des assises des CNSPF, c'est que le journal du PSU ait dit « Ah, un patronat intelligent
oui. ». Mais il y a des analogies entre le syndicalisme des années 1910-1914 et une certaine gauche qui, effectivement, veut se poser les problèmes en termes d'études objectives, en quelque sorte.
Mais Patrick Vincent, est-ce qu'on peut prolonger ce portrait, puisque Michel Perrault appelait à la prolongation possible et au test sur d'autres situations historiques de ce complexe d'images ? Est-ce que pour l'entre-deux-guerres ou pour ce qui est la période d'après-guerre, on retrouverait des constantes ou des choses ont radicalement changé ?
Il y a beaucoup de constantes et c'est ce qui est très frappant. Bon, un exemple qui est bien connu, c'est le terme de monarchie patronale qui a été utilisé très près de nous en mai 1968 et qui évoque tout l'accent mis sur le pouvoir. La récurrence constante du thème des 200 familles au moment du Front populaire en 1936, mais encore au moment des débats sur les nationalisations en 1977. Et dans la conscience ouvrière, il y a effectivement aussi la reconnaissance de la compétence du patron. Louis Renault, dans les années 30, est reconnu à la fois comme le despote, on dit le seigneur de Billancourt, avec ce vocabulaire emprunté à la féodalité, et qui joue en même temps par l'orthographe sur le sang qui est puisé tout à fait, comme le disait Michel Perrault, et en même temps le fait que quand il vient dans l'atelier, on le craint parce que c'est celui qui sait comment les machines tournent, qui sait comment les améliorer, qui sait comment trouver d'autres procédés. C'est le patron et il y a un respect extrêmement fort. Et dans cette métallurgie aujourd'hui en crise, il reste vrai chez les ouvriers ou encore dans le textile des Vosges, qu'autant le patron est l'adversaire, autant c'est celui qui procure le bien-être et qui crée des emplois. Dans le livre sur Boussac auquel je citais, il y a à la fin une lettre de condoléances adressée à la famille de Boussac par les délégués syndicaux qui est extraordinaire parce que c'est un témoignage de l'utilité du patron comme créateur de bien-être. Et je voudrais dire aussi qu'il faudrait voir le vocabulaire des forces politiques de gauche implantées dans l'entreprise. Que ce soit le Parti socialiste sur une petite échelle à travers les amicales socialistes d'entreprise dans les années 30 ou le Parti communiste dès les années 1924-1925, il puise abondamment dans le vocabulaire d'avant 1914, c'est-à-dire que d'un côté, il y a cet appel à une analyse des changements dans le patronat et d'un autre côté, il y a un imaginaire qui reste l'imaginaire du moment où les grandes entreprises sont apparues. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi il y a une relative stabilité. Il me semble que sur le plan purement historique, le rôle de la crise des années 30 et le rôle de la guerre et des rapports entre le patronat et Vichy, par exemple, a été fondamental pour amener une bonne partie de la classe ouvrière à se convaincre que les stéréotypes qu'ils avaient développés étaient fondés. C'est-à-dire que ce patronat n'était pas destiné à entretenir la prospérité, ou bien qui n'était pas destiné à garantir l'indépendance du pays. Et c'est ces deux accidents historiques majeurs qui me permettent de penser qu'il y a peut-être en France une relativement grande permanence.
Chaque scandale relance de toute façon ces images et les fortifie.
Oui, moi je voudrais justement intervenir sur ce point-là. Moi je suis très frappé du fait que, qu'on le veuille ou non, le patron, il est assimilé aux banquiers, aux financiers. Et moi, je suis très frappé de la constante de ce thème chez les historiens. Or, simultanément, lorsqu'on regarde les travaux américains faits sur le patronat français, on reste très sensible à un autre aspect qui est la réussite de la grande entreprise en France, toujours dans cette période des années 1900-1930, et l'épanouissement dans les années 1920 d'un patronat ingénieur, d'un patronat technocrate qui a pour lui trois caractéristiques qui me paraissent absolument fondamentales et qui le différencient justement de ce patronat plus ou moins banquier du 19e siècle. Premièrement, c'est eux qui ont gagné la guerre parce qu'ils étaient de grands ingénieurs et ils ont donc ce sentiment national et cet orgueil qui les porte, qui est collectif. Deuxièmement, ils ont des conceptions absolument modernes des moyens de créer une grande industrie en France standardisée avec des marchés organisés. Ils ont la volonté d'une entente pour porter l'industrie française. Alors je pense à des gens comme Mercier ou De Teuf. Et moi je reviens toujours à cette idée parce que même si aujourd'hui l'industrie a été reprise davantage par des gestionnaires et donc par ce que l'on peut appeler une bourgeoisie d'Europe, je pense que ce patronat des années 1920 se considéraient comme une méritocratie, qu'ils avaient de justifications tout à fait honnêtes de le croire comme tel. Ils étaient non pas les boursiers qui étaient devenus instituteurs, mais ils avaient fait beaucoup parmi eux des études extrêmement brillantes en venant de lieux qui n'avaient aucun rapport avec la bourgeoisie traditionnelle. Ils se concevaient comme tout à fait différents de ces fils de famille pour lesquels ils avaient le plus grand mépris, et je pense qu'ils étaient porteurs d'une civilisation matérielle nouvelle. Ils pratiquaient peut-être pas le fordisme, mais un paternalisme actif, et je pense que là, il y a une image de marque qui a été oubliée, une génération qui a été oubliée probablement dans la crise des années 30, mais qu'il est nécessaire en tant qu'historien de rappeler.
Oui, mais est-ce que ce patronat ingénieur moderniste n'essayait pas de s'identifier à des images anciennes? Et là, on rejoint un des thèmes qui est présent dans l'article de Bourdieu, qui est cette force de la valeur de l'ancien, puisque les modèles pouvaient être cherchés du côté de l'aristocratique, du militaire, parfois du bureaucratique, et qu'on aurait un effet aussi de décalage, de la même manière que dans la perception ouvrière, il y aurait cet effet de décalage entre un imaginaire social qui s'attache à des images enracinées et puis des volontés d'analyse. Ici aussi, un effet de décalage entre des styles de vie, les manières, entre guillemets, auxquelles il a été fait allusion tout à l'heure, qui seraient un peu en rupture avec tout ce qu'a décrit Maurice Lévy-Le Boyer. Oui,
je pense que quand on prend par exemple le patronat des charbonnages, qui est apparu de manière assez sensible dans notre échantillon, on s'aperçoit que dans certaines industries qui recueillent les capitaux traditionnels, en province, on a besoin d'avoir dans les conseils d'administration et même à la tête des entreprises des gens qui sont conformes aux notabilités locales. Il y a encore à cette époque toute une population, il y a une élite de notables traditionnels, et je pense que ce patronat à ce moment-là, il doit se conformer à cette image. Et puis si on regarde l'automobile que nous avons appris à mieux connaître grâce à Patrick Fridençon, on s'aperçoit aussi que la clientèle, ce n'est pas encore le peuple, mais aussi beaucoup de ces médecins de campagne et ces notables. Et donc il faut quand même être à la fois conforme à ses pourvoyeurs de fonds et à ses clients. Et donc, il y a peut-être une recherche de l'image patronale qui tranche sur ces aspects que je décrivais il y a une minute, mais qui est normal.
Je pense que dans notre discussion, là, je vais aller dans le sens tout à fait des historiens. Une des difficultés tient au fait qu'on pense pas, on ne pense pas toujours à la même phase du patronat et on ne passe pas toujours à la même phase de l'entreprise. Et je pense qu'il y a des cycles de vie, par exemple, des entreprises. Moi j'ai été frappé par ça dans mon travail. Quand on fait une coupe synchronique à l'intérieur du patronat, on coupe des des gens qui sont à des moments de l'histoire de l'entreprise très très différents. On a des gens qui existent depuis 500 ans et d'autres depuis 20 ans. Et du même coup, on a des propriétés très différentes. Or, la statistique mélange tout ça. Et je pense que, enfin moi, ce que je demanderais des historiens, qui m'a beaucoup beaucoup manqué dans mon travail, ça serait des monographies d'entreprises, mais peut-être pas au sens traditionnel du terme, enfin des histoires du cycle de vie des entreprises, dans le style de ce qu'a fait Patrick Fridançon, qui permettrait de saisir, à propos d'un petit nombre d'entreprises bien choisies, qui permettrait de poser la question des lois invariantes. Enfin, est-ce qu'il y a des manières de vieillir? Bon, autrement dit, est-ce que il y a des processus de bureaucratisation inévitables? Est-ce que à ces processus de bureaucratisation qui sont liés à la taille correspondent des changements du personnel, etc.? Et peut-être que de ce côté-là, on trouverait la solution, enfin des petites divergences qui nous ont opposées.
Il y a quelque chose que nous n'avons pas mentionné, qui est aussi la motivation. Dans des familles qui se, dans des entreprises qui se créent, utiliser les membres de la famille qui ont une motivation supérieure à l'employé ordinaire, c'est un pouvoir d'expansion extraordinaire.
Oui, mais c'est, par exemple, dans la phase de départ, je pense que la famille a une fonction. Dans la phase de création de petites entreprises privées, etc., par exemple, j'ai essayé de le montrer dans le papier, la fécondité, la production de beaucoup d'hommes, enfin, est très très importante. Ça permet d'avoir des dirigeants pour les filiales qu'on va créer, etc.
Si vous prenez...
Mais dans la phase finale bureaucratique, par exemple, la famille va avoir une toute autre fonction. Bon, et elle sera aussi utile, mais dans un tout autre sens.
Pour revenir au problème des images que le patronat cherche à donner de lui-même, il me semble qu'elles tissent un lien subtil avec différentes strates de la société limitée dans laquelle ils vivent, la société globale qu'ils connaissent de mieux en mieux par les sondages, par exemple, des choses comme cela. Et moi, je suis frappée de voir qu'il y a le problème de l'ancien, le problème du patron amateur d'art, qui en France est un thème relativement récent, le patron et les collections, par exemple. Ça me paraît tout à fait intéressant. Et d'autre part, le patron qui travaille. C'est encore une autre image qui vient d'un autre secteur. Dans un des textes que Bourdieu cite, on suit un patron qui se lève de très bonne heure, enfin relativement, disons, et qui, effectivement, n'a pas un moment de perdu. On a l'impression qu'il y a une épargne du temps dans cette journée qui est absolument considérable. Le patron doit être quelqu'un qui travaille. Alors pourquoi ? Probablement parce que notre société valorise aussi beaucoup cela, et qu'un patron doit effectivement travailler et apparaître comme quelqu'un qui travaille. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce plan des images.
Le patron a une fonction publique plus grande que par le passé. Et on est donc beaucoup plus sensible que par le passé à ce temps consacré aux relations. Mais le patron, de mon point de vue, il a toujours travaillé sans ça, son affaire était destinée à péricliter.
C'était « Les lundis de l'histoire » par Roger Chartier, « Le patronat du XXe siècle » avec Patrick Fridançon, Michel Perrault, Maurice Lévy-Leblond et Pierre Bourdieu, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 décembre 1980. Réécoute et téléchargement sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Yeah.
days we all fall down.